Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et depuis le début de la semaine, vous nous parlez de Marlène Dietrich, inspirée par la lecture du livre de Jean-Paul Bled, La Scandaleuse de Berlin. On en était au tournant de sa carrière, L'Ange Bleu de Sternberg.
Oui, la femme fatale avait déjà connu une incarnation dans le cinéma allemand, Louise Brooks, dans le rôle de Loulou, adapté d'une pièce de Frank Wedekind par Pabst l'année précédente. Mais la Loulou de Wedekind et de Pabst est une ingénue qui provoque des drames parce qu'elle obéit à ses instincts. Lola Lola, la chanteuse de cabaret, incarné par Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu, relève d'une toute autre catégorie de femme fatale. Marlène lui confère la distance ironique dont elle ne s'est jamais départie, son humour désabusé, une once de cynisme, beaucoup de mélancolie. Jean-Paul Bled écrit justement l'ironie d'une jeune femme libre qui connaît son pouvoir sur les hommes. Le succès de L'Ange Bleu en 1930 des deux côtés de l'Atlantique est tel que la Paramount prend immédiatement Marlène Dietrich sous contrat et la fait venir à Hollywood. Et c'est là que, sous la direction géniale de Sternberg, elle va tourner plusieurs chefs-d'œuvre. D'abord Morocco, encore une histoire de chanteuse de cabaret, mais cette fois c'est elle qui se perd pour suivre dans le désert le beau légionnaire dont elle est amoureuse, interprété par le légendaire Gary Cooper. X-27, l'histoire d'une belle espionne qui se sacrifie pour un colonel russe. Au moment d'être exécutée, elle demande au chef du peloton de lui prêter la lame de son sabre afin de s'en servir comme miroir et parfaire ainsi son maquillage. Cela rappelle la fameuse réplique de Shanghai Express. Le policier, qu'alliez-vous faire à Shanghai? Marlène, buy a new hat, acheter un nouveau chapeau. Il y a ainsi des répliques qui semblent ne pouvoir être dites par personne d'autre. Insolence, désinvolture et dérision servies avec une élégance imperturbable. Marlène Dietrich a été l'objection vivante à toutes les étranges théories selon lesquelles il n'y aurait de dandysme qu'au masculin. Suivent Blonde Vénus, Le Cantique des Cantiques, L'Impératrice Rouge, La Femme et le Pantin. Certains des films créés par Sternberg pour sa Marlène furent des succès, d'autres des échecs, mais ce sont presque tous des chefs-d'œuvre. Follement maniérés sans doute, mais ils ne versent jamais dans le kitsch. Pourtant, aussitôt après le lancement de La Femme et le Pantin, adapté du trop fameux roman de Pierre Louis, Sternberg décide de mettre fin à sa collaboration avec Marlène. Il estime avoir été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait créer pour elle. Miss Dietrich et moi avons parcouru ensemble tout le chemin possible.
Et puis entre-temps, les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne. Brice, que pense-t-il de l'exil aux États-Unis de cette Allemande devenue une vedette internationale?
Goebbels s'étrangle de rage en constatant que la plus célèbre femme allemande de son temps refuse obstinément ses offres mirobolantes. Marlène Dietrich est une actrice allemande qui se complaît en Amérique dans des rôles de prostituée, dit-il. Et elle est ainsi connue dans le monde entier où elle donne une fausse idée de l'Allemagne. Mais Marlène demeure inflexible. Goebbels a beau lui proposer un pont d'or pour rentrer au pays, c'est nein. Sans s'être jamais engagée politiquement, elle méprise et déteste les nazis. Question d'instinct. Elle dépense une partie de ses somptueux cachets pour faire fuir le pays à de nombreux Allemands puis à des Autrichiens menacés par le régime. Certains ne l'ont jamais su. Comme l'écrit Jean-Paul Bled, beaucoup d'intellectuels allemands et autrichiens émigrés aux États-Unis y ont dépéri. Le choc culturel était trop douloureux. Quelques-uns, c'est vrai, comme Kurt Weill, devenu vedette à Broadway, ont réussi leur rencontre avec la culture de masse américaine et s'y sont adaptés. Mais un Alfred Döblin se morfond à Los Angeles. Klaus Mann se suicidera en Californie, désolé de n'avoir pas trouvé son public aux États-Unis. Marlène, qui obtient la nationalité américaine et, comme on l'a dit, se dépensera sans compter pour relever le moral des troupes alliées durant la guerre, reste une Européenne. Elle entretient un lien particulier avec la culture française, nouée alors qu'elle était encore adolescente, en pleine guerre de 14-18. Elle fréquente de près les grands écrivains de son temps, entretient une relation d'amour platonique avec Hemingway, beaucoup moins platonique avec Erich Maria Remarque, l'auteur du roman pacifiste fameux « À l'Ouest, rien de nouveau ». Avant la guerre, elle vit entre Hollywood, Vienne, Paris et Londres. Elle tombe amoureuse du belâtre Douglas Fairbanks Jr., tout en ne négligeant pas les amours féminines. Au fameux club Le Monocle, boulevard Quinet, elle fait la connaissance de la fameuse Fredet, divinement androgyne dans son frac. C'est la future tenancière du Carrolls, rue de Pontier. Pontieux, dont Modiano parle dans Remise de peine. Mais son grand amour, c'est un Français, Jean Gabin, le seul de ses amants auquel elle laissera espérer le mariage. Comme je l'ai dit, ils combattront tous les deux contre l'Allemagne nazie. Marlène sera décorée de la Medal of Freedom, la plus haute distinction civile américaine, et elle est la première femme à l'avoir reçue, et elle sera faite chevalier de la Légion d'honneur en France.